interview de Bruno Coulet pour Le Peuple Loup. Bruno, bonjour.
Bonjour.
Alors, compositeur qu'on ne présente plus. Le Peuple Loup, Wolf Walkers en VO. Vous retrouvez le réalisateur irlandais Tom Moore après Brendan et Le Secret de Kells et Le Chant de la Mer. Et ainsi, vous retrouvez aussi le groupe Killa pour la touche irlandaise. C'est donc un film d'animation situé en Irlande, au temps des superstitions et de la magie, à la fois récit d'émancipation, il y a la jeune Robin qui apprend à chasser et à se défendre, et aussi fable écologique, il s'agit de sauver les loups menacés par un méchant guerrier. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de continuité dans votre collaboration sur trois films avec le réalisateur Tom Moore ?
Oui, c'est une sorte de trilogie comme ça qui a commencé avec Brendan et Le Secret de Kells. Et puis avec Tom et Ross aussi, qui est le co-réalisateur du film, mais aussi avec Killa, avec le groupe traditionnel irlandais que j'ai découvert sur Brendan et avec qui j'ai continué à travailler sur le Chant de la Mer. Et puis là, le troisième. Donc il y a une sorte de fil comme ça depuis, et qui me plaît beaucoup. Alors, est-ce que le prochain film de Tom sera encore empreint de toute cette tradition irlandaise ? Ça, je ne sais pas. Mais ça m'a beaucoup intéressé et amusé de plonger mes oreilles dans ces musiques celtes et d'essayer d'en faire une musique plus personnelle.
Et alors donc il y a une continuité, mais est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a une spécificité propre à ce film-là ?
Ce film joue beaucoup sur les contrastes en fait. C'est peut-être un film un peu plus violent, plus heurté que les deux précédents, mais c'est un film qui joue sur les contrastes de la ville, une ville sombre avec une forêt enchanteresse. Les Anglais, les Irlandais contre les Irlandais, il y a tout ce passif, et puis ce côté fantastique qui appartient au monde et à l'univers de Tom et de Ross. Et du point de vue de l'animation, j'ai l'impression que c'est un film qui est encore plus abouti que les deux précédents. Même si j'ai une grande tendresse pour Brendan, dont je trouve le sujet vraiment culotté, audacieux pour un film d'animation. Mais je retrouve là encore une fois chez lui cette exigence, on prend pas les enfants pour des imbéciles, ce sont des films qui peuvent être autant aimés, appréciés par les adultes que par les enfants.
Et puis il y a l'aspect guerrier, sans divulgâcher, il y a dès les premières minutes du film une scène plutôt sanglante, ce qui est étonnant pour un dessin animé, même si plus tard on est moins dans cet aspect-là, mais on rentre dans le film quand même avec effroi. Et pour un compositeur qui a toujours aimé, souhaité, espéré un jour faire la musique d'un film d'horreur, pour un film où il y a la peur du loup qui se transforme ensuite d'ailleurs en la peur de l'humain, musicalement, comment ça s'est traduit justement sur cet effroi ?
J'aime pas trop marquer d'une façon théâtrale et violente la violence de l'image. Donc c'est plutôt, j'espère, par l'émotion. Des choses plus fragiles comme la voix d'une petite fille ou d'une jeune fille ou un violon plus élégiaque comme ça. J'ai l'impression que si le public est ému, il a encore plus sa pétoche, quoi. Et alors que si un orchestre se déchaîne sur des moments de violence, il y a une sorte comme ça de boursouflure et d'effets inutiles, je trouve, de la musique. J'aime bien quand la musique prend d'autres chemins, quand elle crée la peur, qu'elle la distille comme ça, comme un poison, mais d'une façon plus douce, plus... la musique s'infiltre comme ça dans la bande-son, comme un personnage qui hante le film.
Eh bien, écoutons un premier extrait, I'm a Wolf Walker.
Thank you.
musique donc de Bruno Coulet à l'instant pour le film Le Peuple Loup de Tom Moore, musique donc de Bruno Coulet, notre invité. On entend dans cette musique cette touche irlandaise. Encore une fois, il y a ce certain métissage entre votre musique, on reconnaît la touche Bruno Coulet et en même temps cet aspect irlandais. Dans quelle mesure il y a des compositions du groupe Killa ou la contribution de Killa en termes uniquement d'instrumentation?
Dans le film, il y a d'ailleurs quelques chansons de Killa qui viennent se mêler à la musique du film. On les a vraiment regardées ensemble pour qu'il y ait une sorte d'harmonie entre que le passage de la musique originale à la chanson soit de la même veine, de la même essence. Alors c'est toujours pareil avec moi. J'adore travailler avec les musiciens traditionnels. Et avec Killa, là, je commence à avoir vraiment l'habitude, je les connais parfaitement, je sais ce qu'on peut leur écrire. Alors, en fait, j'écris quasiment tout, je leur joue ou je leur chante, et ils ont très bonnes oreilles, et quasiment immédiatement, ils le rejouent, mais avec ce sens rythmique irlandais, avec des instruments, bien sûr, qui leur sont propres. Enfin, qui leur appartiennent. Et du coup, tout d'un coup, la musique passe de l'autre côté du miroir, quoi. Même si maintenant, je connais bien ces instruments, je connais bien leurs méthodes, je sais comment écrire pour les whistles, pour le fiddle, je vois bien comment les bodhrans, par exemple, comment on peut les utiliser, les percussions, mais aussi la violoniste, qui était absolument extraordinaire, hein. Elle joue aussi très bien du dulcimer. Donc moi maintenant, finalement, quand j'écris pour Killa, j'arrive à entendre quasiment ce que va donner le résultat final. C'est toujours mieux que ce que j'attends parce qu'ils sont formidables. Mais enfin, bon, l'habitude, le travail en commun, puis la passion qu'on a quand on travaille ensemble, fait que je commence à rêver et à imaginer la musique en pensant à leur apport qui est essentiel.
Vous n'êtes pas le compositeur mélodiste qui pense à sa mélodie et qui ensuite va se préoccuper de la couleur. Vous visualisez, j'ai l'impression, dès le début, votre musique en termes d'instrumentation et de couleur. L'écriture passe vraiment par cela.
Oui, j'ai besoin d'entendre dans ma tête la musique avec ses réelles couleurs, quoi. En fait, c'est quand même très lié au thème. J'imagine un thème au bois dans ma tête, et donc je lis les deux. Je dirais que la mélodie vient, mais elle vient avec la couleur, et parfois avec des mélanges de timbres qui créent tout le mystère de l'orchestration, quoi. Parfois on se plante, on imagine dans sa tête des mélanges étranges, et puis ça marche pas si bien. Et puis parfois, au contraire, on a l'idée un peu audacieuse de mélanger des instruments hétéroclites et ça fonctionne, ça crée un autre timbre qui est la résultante de tous ces mélanges et qui apporte une chose, comment dire, très personnelle au film. La musique, du coup, s'identifie beaucoup à l'univers du film.
Quand on se penche sur votre filmographie, on se dit que finalement, le cinéma d'animation a toujours été finalement quelque chose de présent sans forcément l'aborder. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu assez tard finalement dans votre parcours, alors que dès Microcosmos, on peut dire qu'il y a déjà une certaine musique d'animation quelque part avec les insectes. Votre univers était déjà là pour l'animation avant même de se confronter à ces films-là. L'animation, est-ce qu'on peut dire que c'est plus de liberté, plus de musique aussi, plus de besoin de musique?
Oui, parce que souvent l'animation, comme Microcosmos, sont les films d'animation se jouent dans un côté qui s'éloigne du réalisme. Et donc, évidemment, la musique a une part plus importante. Elle est presque... Là, je suis en train de travailler avec Henri Selick sur son nouveau film, et je vois bien comment musique et tournage s'articule en même temps. Donc la musique participe de la structure du film. Alors il y a ça, il y a le aussi parce que c'est un temps très long que j'aime beaucoup. On peut vraiment travailler très longtemps sur les orchestrations, sur on peut changer d'avis, d'univers, on peut... mais tout en restant parallèle à la construction du film et à la fabrication du film. Et puis, le cinéma d'animation, moi, ça me plaît beaucoup parce que j'ai l'impression que la musique est un personnage essentiel. Parfois, dans des films qu'on appelle live action, la musique est inutile. Il y a des films qui ne supportent pas la musique. Il y a des films où il faut avoir le courage de dire non, c'est inutile d'en mettre. Ça va au contraire abîmer le film ou en tout cas changer la amener une fausse psychologie au dialogue. Parfois au contraire, la musique peut créer aussi un personnage qui hante le film et qui amène au contraire un autre regard sur le film, une autre impression.
Et contrairement à un film de live action où on peut réagir directement à des images qui ont été tournées, là, très souvent, vous devez trouver l'inspiration sans avoir encore les dessins finalisés. Alors d'où vient votre inspiration ? Est-ce que c'est essentiellement du dialogue avec Tom Moore ?
Non, c'est déjà chez ces grands cinéastes, c'est la même chose avec Henri Selick. Dès qu'on commence à voir les dessins avec les dialogues enregistrés, hein, on commence à... Enfin, moi, en tout cas, ça m'est déjà très... très par... Enfin, si je puis dire, très parlant. Enfin, en tout cas, j'arrive à imaginer la musique dès ses premières ébauches, mais qui, finalement... Alors, après, c'est merveilleux, d'ailleurs, de voir l'enrichissement de l'image... les vraies formes apparaître, les couleurs. Mais finalement, ce qu'on a ébauché souvent comme musique ou comme maquette au moment de ces animatiques s'éloigne rarement de ce qu'on va faire quand l'image sera plus élaborée. D'abord parce que les temps de montage sont assez proches. On coupe, mais enfin, il n'y a pas... Pas comme dans le live action, il y a pas de... le montage est déjà presque inscrit au moment de l'animatique. Les dialogues sont déjà là, bien sûr. J'ai l'impression que la structure est déjà mieux mise en place que sur beaucoup de films j'allais dire normaux, enfin, les films de live action.
Parce que très souvent, les compositeurs, quand ils se confrontent à des films qui ne sont pas forcément encore visualisables, se sont inspirés du scénario, des mots, de la narration. Alors que vous, j'ai l'impression que vous n'aimez pas forcément être en soutien de la narration. Vous êtes plutôt là à chercher quelque chose de beaucoup plus abstrait.
Oui, c'est l'image, moi, qui me... C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à écrire sur un scénario. Je l'ai fait de temps en temps avec Benoît Jacquot et ça m'a plu, bien sûr. Mais j'ai besoin de voir l'image respirer.
Alors, dans Le Peuple Loup, la richesse de ce film de Tom Moore, c'est une multitude de facettes. Il y a l'effroi, on l'évoquait. Il y a évidemment donc la terreur, le monde magique, le merveilleux, le conte. Comment pour un compositeur, justement, on peut passer musicalement à la fois d'un univers à un autre, mais sans être hybride, tout en maintenant une certaine unité?
Je crois que déjà que les motifs, les thèmes qui sont récurrents et qui peuvent très bien passer d'un moment magique à un moment plus tendu, fait que ça donne déjà une unité au film. C'est très important, je pense, d'avoir des unités thématiques, hein, des unités mélodiques, même si ce sont des petits motifs. Moi, je préfère les petits motifs aux longues mélodies qui appartiennent plus à l'univers de la chanson. Les petits motifs, finalement, inconsciemment, germent dans le film et inconsciemment, le spectateur les retient. Et ça permet de donner une grande unité au film, et de ne pas effectivement passer abruptement d'un truc magique à une scène de bataille sans qu'il y ait aucun lien entre les deux. C'est très important de mêler de ça en pensant à la métamorphose. D'ailleurs, c'est un film sur la métamorphose. le loup se métamorphose en humain et réciproquement. Donc la musique aussi doit se métamorphoser, un thème doit se métamorphoser par son orchestration, par le changement d'intervalle, comme si le thème passait par tous les états, mais en conservant tout de même sa matrice première.
Et il y a de la nuance dans la musique. Il n'y a pas d'un côté une musique menaçante, de l'autre une musique merveilleuse. Il y a du merveilleux dans le menaçant, de la menace dans le merveilleux. Et cette nuance évite le manichéisme, où on ne sait plus qui est le danger finalement à un moment donné. Parce que la musique peut condamner un personnage, mais vous vous refusez musicalement finalement de les condamner.
Oui, d'ailleurs je pense que les grands cinéastes ont un regard... Enfin, laisse très libre leur personnage. Ils ne vous forcent pas à vous dire « ce type-là, il est un monstre, un salaud ». Et la musique, de la même manière, ne doit pas, je pense, trop marquer le caractère d'un personnage. Oui, les grands cinéastes aiment... Je ne sais pas s'ils les aiment, mais en tout cas, ils respectent leurs monstres. Et... oui, je pense à Fritz Lang, à tous ces grands cinéastes... Ils ont une façon bienveillante quand même de mettre en scène le monstre. Et c'est à nous, c'est au spectateur de juger, c'est au spectateur de se faire sa propre interprétation de ce qu'il voit. Et c'est en aucun cas, je pense, au musicien de le prendre par la main et de lui dire « voilà ce que tu dois comprendre ».
Et ce qui fait la particularité aussi de votre musique, c'est l'aspect vocal, la présence des voix, comme on peut l'entendre dans ce Wolf Walker's Theme. De l'entendre dans votre musique, Bruno Coulet, pour Le Peuple Loup de Tom Moore, cette voix dans ce thème, c'est la voix de Sophia Coulet, votre fille, il me semble, dans cette musique que l'on vient d'entendre.
Oui, moi je fais des enfants pour les faire chanter dans mes films. Non, je plaisante, mais en tout cas, oui, je trouve qu'elle chante d'une façon assez émouvante. Elle n'a pas une grande technique vocale, mais moi je préfère ça. J'aime bien quand la voix donne une chose peut-être plus émouvante que parfaite, quoi. Un timbre, une chose qui amène... J'ai eu l'impression, et Tom et Ross aussi, que cette voix amenait un côté fantastique au film, un côté et en même temps émouvant, mais pas trop joli, quoi. Il y a quelque chose d'angoissant dans ce petit thème. Avec cet intervalle qui fout un peu les jetons. Voilà. Et après, il y avait aussi une choriste, enfin une chanteuse merveilleuse, qui s'appelle Camille Joutard, et qui a fait. Et d'ailleurs, qui est plus âgée, et que j'avais connue sur Coraline. J'avais travaillé avec elle sur Coraline. Et elle a, bizarrement, leurs deux voix sur les chœurs. Sont très proches, alors qu'il y a une grande différence d'âge. Un film amène des coïncidences étranges qui servent le film et qui n'appartiennent qu'à ce film.
Quel regard vous avez sur le format chanson, sachant que dans vos partitions, vous êtes rarement totalement dans la chanson, on est dans la lisière, la frontière mince entre la chanson et la voix utilisée comme un instrument en tant qu'instrument.
Oui, il y a aussi une chanson d'Aurora sur laquelle moi j'ai écrit des cordes. Ben, le danger de la chanson au cinéma, c'est que ça a tendance à clipper l'image, c'est-à-dire à faire comme une parenthèse dans le récit. On arrête le récit, puis il y a la chanson qui débarque. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que sur la chanson, par exemple, d'Aurora, on a rajouté l'orchestre pour qu'il y ait quand même un lien entre la musique du film et cette chanson, que ce ne soit pas tout d'un coup, en plein milieu, une espèce de performance, aussi belle soit la chanson, hein, mais qui vienne faire une sorte de trou dans la narration. Mais j'aime bien, en revanche, créer comme des fausses chansons, c'est-à-dire des chansons qui viennent de la musique de film, qui vont vers la chanson, et hop, qui retournent à la musique du film. Ce qui fait qu'on ne tombe pas dans l'écueil dont je parlais tout à l'heure, quoi, du clip de l'image.
Vous êtes un compositeur cinéphile. Tom Moore est un amoureux de la musique. Malgré tout, j'ai l'impression que de part et d'autre, vous passez rarement par des références. Ou en tout cas, dans le résultat final, on pense rarement à d'autres univers que le vôtre.
Oui, je sais que lui met des temp music pour monter ou travailler sur ses films, mais moi je les écoute pas du tout. Et puis je pense que ce qu'il attend justement, c'est une musique, et ce que je cherche moi, une musique qui n'appartienne qu'au film. Le problème, si vous tombez dans le jeu des références, c'est qu'on finit par faire un peu ou beaucoup moins bien ce qui existe pour des films et qui ont servi magnifiquement un film précis. Mais le retrouver, c'est un peu le problème de beaucoup de musique que j'entends depuis des années maintenant, c'est que j'en entends la matrice. Et je trouve que ça ramène la musique à quelque chose de très, comment dire, fabriqué, de très standardisé, qui finalement joue contre le film, puisque cette musique n'appartient pas au film. Elle vient d'un autre univers.
Face au film Le Peuple Loup, avec un tel récit, cette jeune femme guerrière, l'aspect écologique aussi, sauver la forêt et les loups, on aurait pu penser au cinéma de Miyazaki, on peut y penser, mais malgré tout, dans les couleurs, le dessin et la musique, on n'y est pas du tout.
Oui, je crois que Tom et Ross aiment beaucoup Miyazaki. Hein. Il y a quelque chose peut-être dans la transparence des couleurs, dans l'éclat des couleurs qui pourrait faire penser... Mais c'est quand même des films très personnels. C'est leur univers, quoi. C'est leur monde. Et tout l'enjeu du compositeur, c'est d'essayer de pénétrer dans ce monde tout en gardant quand même son univers propre, si tant est qu'on ait un univers. Mais c'est toute la difficulté et l'intérêt de la musique de film. C'est-à-dire de se dire, tiens, voilà, ce film, il y a quelque chose d'extrêmement personnel, et comment, avec la musique, rendre compte de cette qualité, de cette différence, tout en conservant quand même quelque chose qui nous est propre.
Alors, comme je le disais, il y a cette fable écologique, il y a la nature qui est très importante, cette forêt, ces loups. La nature, vous l'avez beaucoup illustrée, notamment dans des documentaires animaliers. Quelle a été la place de la nature, des sons de la nature, dans votre conception musicale ?
Là, j'ai vraiment construit la musique avant même que la bande son existe. C'est une sonorité un peu rêvée pour moi, la sonorité de la nature. Je suis pas un homme de la campagne. Il y a vraiment une espèce de mystique. Enfin, il y a quelque chose de pas normal. J'ai fait beaucoup de films sur la nature, sur les animaux, alors que j'adore la ville. J'aime beaucoup le béton. J'ai besoin de de choses qui grouillent un peu autour de moi. Mais et la nature, c'est ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une chose un peu... elle m'intéresse quand elle est un peu quand c'est un peu fantastique, quoi. Les sons d'une forêt. Je suis très sensible aux sons, j'écoute beaucoup. Et donc, quand je travaille sur un film comme ça, où la nature a une, notamment la forêt a une importance énorme, j'essaie de construire la musique en pensant à une sorte de bande son. Un peu rêvé, étrange et fantastique, hein. Plus qu'une bande son réelle, réaliste.
Et dans votre partition pour Le Peuple Loup, on entend ce violon soliste, notamment dans ce morceau. On vient d'entendre ce titre, Mechanical, avec notamment ce violon soliste. Alors l'instrumentation, le choix des instruments est toujours très important dans votre travail. Et parfois c'est justifié, il y a une réflexion derrière. Est-ce que par exemple ce violon soliste, c'est le personnage de la jeune femme? Comment vous avez réfléchi cette instrumentation?
Ah non, j'y pense pas du tout à ça. Pour moi, je mêle pas un instrument à un personnage, ou en tout cas très rarement. Le violon, là, les violons solos, il y en a deux. Il y en a un, il y a le violon soliste qui joue avec l'orchestre, qui est un violoniste bulgare, excellent d'ailleurs. Et puis il y a Dee, qui est la violoniste de Killa, qui joue là d'ailleurs dans le morceau qu'on vient d'entendre, et qui a aussi alors une... d'ailleurs les deux sont assez proches finalement, qui a une liberté, un son et une émotion dans le jeu qui me... Moi qui à chaque fois me bouleverse. Non, c'est peut-être la fragilité du violon, en même temps son expressivité, l'émotion que ça dégage. Moi-même, j'ai fait du violon quand j'étais plus jeune. C'est un instrument que j'aime et que j'aime beaucoup en solo. Mais je ne pense pas du tout que ça va représenter la jeune fille ou... c'est un peu la densité de l'image aussi. Il y a des séquences qui ont une densité plus légère et qui amènent une orchestration, et c'est le cas là. Alors que pourtant, c'est mechanical, on sent bien que le travail est une chose hachée, rythmique, mais assez tendue. Mais il n'y a pas une grande densité d'image comme il peut y avoir dans des scènes de bataille où là l'orchestration doit être plus large, plus riche, plus profonde.
Et dans le travail instrumental, régulièrement vous faites appel à des instruments particuliers, insolites, qui ne sont d'ailleurs pas forcément des instruments comme des ustensiles de cuisine, ou notamment vos jouets d'enfants. Est-ce que vous les avez employés cette fois-ci?
Non, j'ai enregistré moi des choses, des choses hétéroclites, des objets, mais pas de. Je crois pas me souvenir que j'ai utilisé des jouets. S'il y a peut-être des boîtes à musique, des choses comme ça, mais que j'ai rejoué en fait, parce que je joue Je joue tous les claviers dans la musique du film. Donc il y a aussi des sons synthétiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mélanger les sons, oui, les sons, pas des samples qui viennent imiter les instruments, mais des timbres, des sons nouveaux qui enrichissent la palette de l'orchestration. Et ça, j'ai besoin d'ailleurs de les entendre avant de faire l'orchestration définitive.
Et il y a tous ces instruments traditionnels, le baudrane, un certain nombre d'instruments comme ça, même des flûtes, le sifflet. Est-ce que tous ces instruments-là sont de l'univers de Killa?
Dans le film, oui. Tout ce qui est qui échappe à la nomenclature de l'orchestre, c'est Killa. C'est les whistles, c'est les fiddles, les beaux drames, les percussions, le dulcimer, les guitares, il joue de la mandole. Mais il y a aussi de la batterie, il y a de la basse. J'ai été venu aussi avec Slim Pesin, qui est un guitariste français formidable, qui a souvent travaillé avec moi, et qui se mélange, mais on le fait depuis Brendan, très naturellement avec les musiciens de Killa. Donc il y a aussi une patte, j'avais fait avec Jean-Philippe Audin sur le chant de la mer, là on n'a pas pu le faire à cause des problèmes de Covid qui faisait que c'était impossible au moment où je voulais enregistrer Jean-Philippe. Je voulais aussi travailler avec Marc Marder à la contrebasse, et puis on n'a pas pu parce qu'on s'est tombé en pile poil. On a enregistré l'orchestre et Killa juste avant le confinement. Tout ce que je voulais faire après, c'était impossible.
Donc là, Le Peuple Loup, réalisé par Tom Moore. Le cinéma d'animation, c'est pas fini pour vous, puisqu'il y a ensuite un autre film de Henri Selick. Vous étiez d'ailleurs en visioconférence au dernier festival d'Annecy avec lui pour parler, entre autres, de Wendell and Wild. Vous retrouvez à cette occasion Henri Selick après Coraline. Au moment du dernier festival d'Annecy, en juin dernier, vous étiez vraiment à peine à lui proposer les premiers thèmes. Juste pour terminer cet entretien, des nouvelles de ce projet?
Ah oui, c'est extraordinaire, c'est un projet aussi extraordinaire, d'une imagination incroyable. J'ai très bien avancé, j'ai fait quasiment toutes les j'ai écrit à peu près toutes les musiques du film. Maintenant j'attends qu'eux, parce qu'ils ont été aussi retardés, ils ont été confinés, et puis comme les studios sont à Portland, il y a eu des problèmes d'incendie, de fumée qui faisaient qu'ils ne pouvaient plus sortir. Enfin, bref, mais là, ça y est, ils sont en plein, à nouveau, en plein dedans. Et je reçois là, chaque 15 jours, chaque mois, des nouvelles images qui sont de plus en plus extraordinaires. Alors là, c'est jubilatoire parce qu'il y a tout. C'est une sorte de démon. Mais il y a de la comédie, il y a de la terreur, encore une jeune fille qui est, comme dans Coraline, qui est le personnage principal du film. J'utilise beaucoup de voix, d'instruments un peu bizarres, alors là pour le coup très, très étrange. Et puis il y aura l'orchestre, mais que je traiterai d'une façon très... très particulière. Les cordes, par exemple, je veux vraiment faire des enregistrements presque en séparant les timbres, en faisant parce que j'ai envie de leur faire jouer des choses très spéciales, très, très étranges. Et puis après, de remanipuler presque au mixage, enfin il y a vraiment de faire un travail de recherche, plus, surtout pas un travail académique. Ça c'est passionnant, c'est tout ce que j'attends du cinéma, quoi, c'est-à-dire de trouver des choses, d'inventer des possibilités instrumentales ou des mélanges étranges. Et ça se passe bien, ça se passe bien. Mais comme chez Tom Scott, j'ai une sorte de Eros, pardon. J'ai une les images de Henry me parlent naturellement. Ça déclenche tout de suite des idées musicales.
Et bien avant de découvrir Wendell and Wilde d'Henry Selick et de votre musique sur Netflix, on peut donc découvrir le 16 décembre la partition et le film Le Peuple Loup, partition d'ailleurs déjà disponible sur toutes les plateformes grâce à 22D Musique. Merci Bruno Coulet.
Ben merci, c'est vraiment un film qui me tient vraiment à cœur et que j'aime tout particulièrement.
Et bien également, c'est partagé. Et on termine avec un dernier morceau musical de donc Bruno Coulet pour Le Peuple Loup. Au revoir et merci de nous suivre tous nos podcasts donc sur toutes les plateformes Cinésique Radio. Au revoir.